Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 9 de la série « Où jeter l'ancre ?» Et notre étude aujourd'hui est intitulée « Primo, satisfaction garantie » et « Secondo, ma réponse à cet amour ». Chers amis, je me laisse volontiers influencer par le label « Satisfaction garantie » et j'aime m'assurer de l'efficacité de ce que j'achète. Après tout, il s'agit de la raison de mon achat. Jésus-Christ mourut pour satisfaire les justes exigences d'un Dieu trois fois saint. Le prophète Ésaïe déclare, en parlant du Messie à venir, « Il verra une postérité résultat de son œuvre, et il rassasiera ses regards. » Ésaïe, chapitre 53, versets 10 et 11. Même sans révélation biblique, chaque homme sait très bien que la colère divine pèse sur lui. En observant les hommes, et ceci de toute race ou nation, même de toute religion, l'on voit qu'ils sont séparés de Dieu. Tous centrent leurs croyances et leurs pratiques sur l'apaisement de diverses divinités. Le chrétien cherche parfois à rassurer les autres en disant simplement « Oh, Dieu vous aime et Christ est mort pour vous, il n'y a donc pas besoin de s'en faire. » Mais la situation ne s'achève pas aussi simplement. Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur du monde, et pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, la situation est assez sérieuse. Aussi, j'ai compris, en étudiant soigneusement tous ces textes que j'avais préparés il y a plus de 40 ans, il est vrai, mais que j'ai un peu oublié, que, au fond, j'ai même pas le droit, à la fin de mon étude, de dire « Dieu vous aime ». C'est pas tout à fait correct. Et vous allez le comprendre avec le petit changement que je suis obligé de faire à la fin de mon étude, car j'ai pas le droit de dire « Dieu vous aime » dans le sens qu'il aime tout le monde. Dieu vous aime tous, qui que vous soyez et quelle que soit toute votre vie du passé et actuel. Chers amis, un grand nombre de gens payeront le prix de leur péché en enfer. Et là, on pourra pas dire « Dieu vous aime tous ». Et j'ai commis une grave erreur en disant cela. Voyez-vous, cela se peut-il vraiment que si Christ mourut pour assouvir la colère de Dieu envers tous, est-ce que cela se peut que Christ est vraiment mort pour assouvir la colère de Dieu pour tout le monde? On essaye donc, dans cette étude, de comprendre cela un peu mieux. Écoutons par exemple Warfield, qui était un théologien réputé, au sujet de ceux qui s'opposent à l'efficacité absolue de l'œuvre du salut de Jésus-Christ en l'appliquant aussi à ceux qui ne croiront jamais. ils se détournent forcément d'une expiation substitutive. Christ, semble-t-il, ne mourut pas à la place du pécheur pour porter son châtiment et lui procurer la vie éternelle. Plutôt, il rend donc le salut du pécheur possible. Il lui en ouvre la voie et enlève tout obstacle sur son chemin. Mais quel obstacle s'oppose au salut du pécheur en dehors de son péché? Et si Christ ôte cet obstacle, le pécheur n'est-il pas sauvé? Un auteur voulant caricaturer les partisans de l'expiation définie disait « Oh, il croit que Christ a accompli sur la croix une œuvre d'une efficacité intrinsèque. » Bien sûr, oui, nous devons placer notre confiance en Christ et accepter son sacrifice pour nos péchés, mais aucun de ceux pour qui il mourut ne le rejettera. Christ a tout accompli, il a réussi donc bel et bien, magnifiquement, sa mission. Chers amis, je me suis souvent demandé par simple curiosité, que se passerait-il si Christ était réellement mort pour tous, absolument pour tout un chacun, sans exception? Il me faudrait alors me rattacher à la doctrine du salut universel et non à une position intermédiaire. En effet, la Bible ne dit jamais « Christ rendit possible la rédemption, la réconciliation ou la propitiation à tous. » Mais selon elle, il obtint effectivement ses bienfaits pour les bénéficiaires de sa mort. Puisque la Bible envisage seulement une expiation qui sauve réellement et ôte toute condamnation, tous seraient alors sauvés, croyants ou non. Regardons brièvement à la nature de l'œuvre de Christ un peu tout cela de plus près. Premièrement, nous avons tout d'abord une rédemption. Cela signifie racheter, rentrer en possession de ses biens par un paiement. L'obtention par un paiement de la libération d'un esclave, par exemple. Le péché nous a assujettis et gardés en otage. Mais Christ a payé la rançon pour le chrétien afin de le libérer et de prendre possession de lui. Que penser d'une rédemption dont la plupart des captifs restent en captivité, même après le paiement de la rançon, et qui continuent de vivre n'importe comment? Comment Christ pourrait-il avoir payé pour la libération de tous, sachant que la plupart resteraient finalement captifs? Ésaïe annonce et dit « Il verra une postérité fruit de son œuvre et rassasiera ses regards. » Comment Christ pourrait-il rassasier ses regards en voyant beaucoup de ceux pour qui il mourut demeurer dans les tourments éternels? Comme Charles Spurgeon a très bien fait remarquer, s'il avait l'intention de racheter tous les hommes, sa déception doit être immense. Deuxièmement, nous avons une propitiation. Elle détourne la colère de Dieu en le rendant propice à l'égard du pécheur. Des hommes se verront pourtant condamnés à tout jamais, car ils se trouvent toujours sous cette colère. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, nous est-il dit dans Saint Jean chapitre 3, verset 36. Dieu finira par déclencher sa colère envers les vases de colère. Romains chapitre 9, verset 22. Or, voyez-vous, si Christ n'a pas davantage apaisé la colère de Dieu pour moi que pour Judas Iscariot, comment saurais-je si elle ne me consumera pas? Parce que vous avez cru, tout simplement parce que vous avez cru, me répondra-t-on? Alors, c'est moi, et non Christ, qui ai apaisé la colère de Dieu, non? Troisièmement, nous avons une réconciliation. Elle signifie la fin du conflit. Toutefois, des hommes se retrouvent en enfer, et ceci pour l'éternité, car ils demeurent en conflit avec Dieu. Ceux qui se réconcilient deviennent amis. Jésus-Christ donna sa vie pour ses amis, selon Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Ceux qui, jusqu'à la fin de leur vie, rejettent Christ, sont-ils tous vraiment amis de Dieu? Dieu envoie-t-il ses amis en enfer? La Bible dit dans Saint Matthieu, chapitre 25, verset 4, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » Cet ordre, il me semble, ne s'adresse pas à des amis. La Bible ne parle pas d'une éventuelle réconciliation rendue possible pour tous par la mort de Christ. Elle promet bien au contraire, étant réconciliés, nous serons sauvés. Romains chapitre 5, verset 10. Par conséquent, être réconcilié revient à être sauvé. Et quatrièmement, nous avons une substitution. Ce concept ressort partout dans les Saintes Écritures comme l'acte de celui qui souffre à la place d'un autre. Le sang de Christ constitue celui de l'alliance qui est répandue pour et à la place de plusieurs pour la rémission des péchés. Saint Matthieu chapitre 26, verset 28. Imaginons un peu un condamné à mort et un étranger innocent qui persuade le juge de le laisser se substituer au criminel et mourir à sa place. Or, si après la mort du substitut, le juge décide d'exécuter aussi le véritable criminel, il se rend coupable de meurtre. Christ s'interposa et reçut le châtiment des élus. Ceux-ci n'ont plus à le recevoir. Dieu ne condamne pas à la fois le Rédempteur et les racheter. Cette réalité nous incite à faire partie des rachetés en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Les païens cherchent par leur sacrifice à apaiser les dieux. L'Ancien Testament, dans ses sacrifices d'animaux, préfigure le sacrifice parfait du Fils de Dieu. L'homme ne dispose d'aucun moyen d'apaiser Dieu qui doit apaiser sa colère en pourvoyant lui-même au sacrifice. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, selon Hébreux chapitre 10, verset 18. Si vous croyez, vos péchés vous ont été remis, et aucun sacrifice ne s'avère donc désormais nécessaire pour satisfaire Dieu. Dans le cas contraire, et si vous persistez dans l'incrédulité jusqu'à la mort, il n'y a pour vous aucune rémission des péchés, et il vous faudra passer l'éternité en enfer. Étrange tout cela, que vous soyez des étrangers à l'alliance de salut ou pas. Je répète, dans le cas contraire, et si vous persistez dans l'incrédulité jusqu'à la mort, il n'y a pour vous aucune rémission des péchés, et il vous faudra passer, hélas, l'éternité en enfer, étranger à l'alliance de salut. Le pécheur qui est déchu et qui est séparé de Dieu n'a absolument nul besoin d'entendre « Dieu aime tout le monde ». Donc, Ambroise, qui était l'un des pères de l'Église, déclara « Si tu meurs dans l'incrédulité, Christ n'est pas mort pour toi ». Une déclaration qui fait certainement réfléchir, non ? Présentons à celui qui se trouve au bout du rouleau une rédemption déjà complète et non à compléter par sa foi. Ce monde de désespoir n'a pas besoin d'un sauveur potentiel et hypothétique, mais ce monde a besoin d'un sauveur réel et efficace. Christ se donna comme la rançon de plusieurs. Matthieu chapitre 20, verset 28 et chapitre 26, toujours de Saint Matthieu, verset 28 également. Et on peut ajouter Hébreux chapitre 9, verset 28 à nouveau. Donc, Jésus-Christ lance cette invitation. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28, ainsi que l'évangile de Saint Jean, chapitre 7, verset 37. Donc, celui qui ne vient pas n'a jamais fait partie du plan divin de salut. Je répète, celui qui ne vient pas n'a pas fait partie du plan divin de salut. Après tout, ne s'agit-il pas de cela, croire en Christ? Je n'oserais faire l'insensé et annoncer une rédemption qui ne rachète pas, un salut qui ne sauve pas. Croyez et vous serez sauvés, irai-je dire à quelqu'un, et vous me répondrez, irez-vous au ciel? Oui, car Christ est mort pour moi. Mais il est mort pour tous, alors nos chances restent égales. Or, voyez-vous, chers amis, malheureusement, certains de ceux pour lesquels Christ mourut se trouvent curieusement en enfer. Cela devrait nous donner à réfléchir. La bonne manière d'annoncer l'Évangile, Spurgeon a conclu que tout cela tient compte de cette doctrine. Écoutez bien. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, ça c'est vrai. Sinon, il n'y a ni salut, ni rédemption pour toi. Tu n'es ni racheté, ni sauvé. Tu seras perdu à jamais. Donc, vous avez compris, ce grand théologien Spurgeon, il a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Sinon, il n'y a ni salut, ni rédemption pour toi, et tu n'es ni racheté, ni sauvé. Donc, tu seras, hélas, perdu à jamais. À quoi sert de dire à quelqu'un, Dieu vous aime? Ce que j'ai eu tort de dire, comme si Dieu aimait tout le monde, la même chose. Ça, c'est un mensonge. Christ est mort pour vous, et si des millions d'hommes censés être aimés par Dieu et pour lesquels Christ est mort peuplent l'enfer, alors que faut-il penser? L'incroyant peut-il se réjouir de ce message? À quoi cela lui servira-t-il en enfer s'il rejette l'Évangile? Nous pensons au Don Juan qui déclame son amour avec un romantisme merveilleux à faire pâlir la jeune fille qui se trouve en son pouvoir. Cependant, la voici qui arrive à l'improviste, heureusement pour elle, et le découvre en train de tenir exactement le même langage à une autre fille qu'il connaît presque pas du tout. Il vient juste de la rencontrer. À voir cet homme dire cela à toutes les filles, eh bien, notre jeune fille, se sent-elle alors unique? Je crois pas. Se croit-elle vraiment aimée d'un amour véritable? Oh, j'ai de la peine à penser cela. Si par contre, l'on montre à l'incroyant que Dieu aime les pécheurs et que Christ est mort pour les pécheurs, l'on peut affirmer l'efficacité de cet amour et de cette mort expiatoire. Ceux que le Sauveur a aimés et pour lesquels il a donné sa vie seront sauvés. Cet amour se révèle pleinement efficace. Et cette doctrine souligne la valeur, mais aussi l'urgence de la foi en Jésus-Christ. Donc, l'homme qui rejette Christ se montre étranger à l'amour éternel de Dieu et totalement hors des limites de la rédemption. Là est tout le problème. Mais dira-t-on, voyons, Dieu aime-t-il quand il décide de ne pas racheter tous sans exception? Répondons par une autre question. Ferait-il Dieu preuve d'amour en envoyant en enfer celui de qui Jésus-Christ aurait déjà payé la libération? Nul ne pourra jamais dire « J'ai cherché le salut, mais il n'y avait rien pour moi. » Christ a obtenu le salut pour tous ceux qui, par la grâce du Saint-Esprit, croient vraiment en lui. seuls ceux qui ne l'auront jamais vraiment cherché n'obtiendront jamais la rédemption. Cherchez et vous trouverez, selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Et c'est ce que promet l'Écriture sainte. Vous recherchez le salut, car Dieu est à l'œuvre en vous et se trouve tout près de vous. Acceptez le sacrifice de son Fils bien-aimé comme ayant pleinement satisfait aux exigences d'un Dieu juste et saint. Ayant donc placé votre foi en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Êtes-vous, chers amis, vraiment en Christ? La grâce de Dieu est efficace, comme elle, celle-là, et obtint notre rédemption à la croix, elle se révèle efficace quand le Saint-Esprit s'empare de notre vie et nous transforme par son puissant amour. Voici son œuvre dans cet acte de la rédemption. Il nous attire à lui et crée en nous une vie toute nouvelle. Et ni les circonstances, ni le diable, ni même la mort ne peuvent empêcher l'amour éternel de Dieu de nous conquérir. Imaginons la joie d'un couple qui parvient au terme de la procédure d'adoption et peut désormais amener l'enfant chez eux. Le processus débuta à l'instant où ils le choisirent parmi plusieurs autres. Et puis, il y eut les démarches, peut-être les questions de finances. Enfin, l'enfant arrive dans sa nouvelle famille. Il dispose maintenant d'un foyer. Il peut se sentir en sécurité et vraiment aimé. Dieu aussi se charge des formalités de notre adoption dans sa famille et il nous procure une vie nouvelle. Chers amis, nous étions morts par nos offenses et par nos péché, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Nous devons donc recevoir une vie nouvelle. Ceci exige une résurrection opérée par une puissance extérieure à nous-mêmes. Quand Jésus-Christ dit « Lazare, notre ami, dort. » Ses disciples répondirent « Oh, il sera guéri. » Alors Jésus-Christ leur dit « Carrément, ouvertement. » « Ah non, Lazare ne dort pas simplement, mais il est vraiment mort. » Évangile de saint Jean, chapitre 11, versets 11 à 14. Et puis, il se rendit à sa tombe et le ressuscita. Cet acte préfigurait sa propre résurrection. Il est vivant et il nous assure ainsi une vie nouvelle. Pas tous les chrétiens savent que par nature, nous sommes morts et sans réaction face à l'Évangile. Mais vous guérirez Attendez un peu. Entend-on dire un peu à droite et gauche aujourd'hui? Et Jésus dit à ses disciples, Lazare est mort et Dieu nous convainc dans l'Écriture sainte du caractère tout aussi désespéré de la condition spirituelle de l'homme qui est sous l'empire du péché. Romains 3, verset 9. L'on ne peut séparer la volonté d'une personne de sa nature. Christ dit à ses opposants, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui est le diable. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Évangile de Saint Jean, chapitre 8, versets 34 et 44. Une nature qui est opposée à Dieu ne peut ni ne veut l'accepter, croyez-moi. Et voici pourquoi il faut que vous naissiez de nouveau, écrit dans Saint Jean chapitre 3, versets 5 à 7. L'on parle vraiment beaucoup de nouvelles naissances aujourd'hui un peu partout. Mais des personnalités très connues se disent « nées de nouveau ». Il importe donc de comprendre le sens de cette expression. Tout d'abord, « né d'en haut » conviendrait un peu mieux. La nouvelle naissance provient carrément d'en haut et non du dedans de nous. L'homme ne peut ni initier, ni produire sa propre régénération. Il ne naît pas de nouveau parce qu'il croit. Il croit car Dieu l'atteint d'en haut, par l'Esprit Saint, et lui accorde la nouvelle naissance. Je répète. L'homme ne peut ni initier ni produire sa propre régénération. Il ne naît pas de nouveau parce qu'il croit. Il croit car Dieu l'atteint d'en haut par l'Esprit Saint et lui accorde la nouvelle naissance. Par la première naissance, nous entrons dans la famille d'Adam. Et cette famille-là, je ne pense pas que tous en sont sauvés. Et voici pourquoi le psalmiste se lamente. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume chapitre 5, verset... Non, excusez-moi. Psaume chapitre 51, verset 7. Donc, notre état naturel nous pousse à rejeter Dieu et à accomplir notre propre volonté. Ainsi, l'on ne peut ni opérer en soi-même un changement aussi radical, ni même y contribuer. Pourquoi cela? Car ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Selon Romains, chapitre 8, verset 8. Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 18. Donc, notre nature doit être changée si nous voulons changer de comportement. Une nouvelle personne doit remplacer l'ancienne. C'est aussi simple que cela. Donc, une nouvelle personne devra remplacer mon ancienne personne. Comme Lazare, lors de sa résurrection physique, nous ne pouvons contribuer au processus de notre nouvelle naissance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ déclare « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Saint Jean chapitre 6, verset 44. Nous ne saurons sans doute jamais, avant de le voir face à face, pourquoi Dieu n'abandonna pas tout simplement le monde au gâchis produit par le péché. Il avait averti Adam, « Tu mourras. » Et comment ? Mais comme les hommes aujourd'hui, celui-ci refusa, malgré tout, de croire Dieu. Néanmoins, la grâce et la miséricorde divine, prévalent heureusement encore aujourd'hui. Chers amis, il est important de savoir que l'œuvre de notre Sauveur constitue le paiement de la rançon qui libère du jugement et de la condamnation. Quand nous naissons de nouveau, nous commençons à vivre la liberté acquise par Jésus-Christ. Nous pouvons comparer le salut à la construction d'un édifice. Le Père est l'architecte. Le Fils achète le terrain et les matériaux, et le Saint-Esprit se sert du plan du Père et des matériaux du Fils pour construire ce magnifique temple de la grâce qui est le corps de Christ. Par sa mort, Christ ôta le châtiment du péché, car il l'endura. Il a enduré notre péché à notre place, surtout notre châtiment. Donc par sa mort, Christ ôta le châtiment du péché, car il l'endura à notre place. Et en mourant, il piétina carrément la mort. Grâce donc à notre union avec lui, sa mort devient également la nôtre. Ainsi l'apôtre Paul déclare, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Romains chapitre 6, versets 5 et 6. Donc, par sa mort, Jésus-Christ racheta tout ce que nous avions perdu à la chute. Il crucifia la vieille nature héritée d'Adam et il enterra l'ancienne identité en Adam et nous acquit une vie et une identité absolument nouvelle. C'est merveilleux cela. Et quand le Saint-Esprit vient à nous, il recrée carrément notre âme. Éphésiens chapitre 4, verset 24 et Colossiens chapitre 3, verset 10. Nous nous dépouillons de l'ancienne identité et revêtons la nouvelle et nous perdons notre vie, notre ancienne nature, afin de découvrir la vraie vie et une identité surnaturelle. Christ, Créateur et Rédempteur du monde, vient à nous maintenant pour opérer en nous une nouvelle création. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs, et ceci pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Heureusement, une nouvelle croix s'introduit, et à leur insu, en de nombreux milieux chrétiens, et ce nouvel évangile emploie les mêmes termes, mais avec un sens totalement différent. Ah oui, la nouvelle croix ne tue plus du tout le pécheur, mais elle le réoriente. C'est fabuleux cela. Je ne savais pas. Je répète, la nouvelle croix ne tue plus le pécheur, il est plus puni, il ne va pas en enfer, mais elle le réoriente. Elle le dirige vers un style de vie à la fois plus propre et très acceptable, qui lui conserve son estime de soi. Il peut rester fier. Elle exhorte l'extraverti à se déclarer pour Christ, l'orgueilleux à se glorifier dans le Seigneur, et l'amateur de sensations à jouir d'une vie abondante en Christ. Mais vous avez été rachetés à un grand prix, dit la Sainte Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous appartenez tenez donc à quelqu'un d'autre. Et à la croix, nous avons été libérés de l'emprise du péché, non pour reprendre tout le contrôle, mais afin d'appartenir tout simplement à Jésus-Christ. Il nous libère de toute autre appartenance, et ceci dans le but d'être entièrement à lui. Voyons maintenant ce que veut dire la glorification. D'après le dictionnaire, elle consiste à rendre plus beau, à traiter avec plus d'excellence que normal. Il s'agit d'un éclat ou d'une condition d'exaltation. Du grec doxa, gloire, nous tirons le mot doxologie. Ainsi, glorifier quelqu'un revient à lui accorder dignité, honneur et estime. Quiconque s'élève, nous est-il dit, sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Saint Luc, chapitre 14, verset 11. Notre union à Christ et identification à sa nature dans une humble reconnaissance de notre dépendance de lui nous élève jusqu'aux cieux. Et là, où il siège dans la gloire. Mais il nous faut d'abord renoncer et rejeter toutes nos prétentions à l'estime, à la dignité et à la gloire en dehors de Dieu. Seule l'humiliation conduit à la glorification. Alléluia. La mort de Christ correspond à notre rédemption et sa résurrection à notre résurrection spirituelle et à l'acte juridique déclarant notre justification et son ascension à la droite du Père à notre glorification. En d'autres termes, quand Jésus-Christ mourut, nous sommes morts quand il ressuscita des morts. Nous avons aussi reçu une nouvelle identité et un esprit vivant. Enfin, lors de son ascension, nous avons été exaltés et glorifiés avec lui dans les cieux. Aussi existons-nous à présent et jusque dans l'éternité comme des êtres glorifiés. La glorification représente la consommation, l'apothéose du salut. Hébreux chapitre 6 verset 20 affirme « Christ est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il inaugura la route que nous emprunterons un jour. Il ne fut pas le seul à aller au ciel. Il fut par contre le premier. Par son retour victorieux dans la présence du Père, Jésus-Christ nous en garantit l'entrée. Et à sa mort, Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ, il l'a vu debout à la droite de Dieu. C'est confirmé par Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. Il pouvait mourir en paix, certain d'avoir cet avocat auprès du Père qui se préparait à le couronner de la même gloire. Dieu ne créa pas simplement de ruines. Non, sa création était parfaite et sa nouvelle création paraîtra devant lui glorieuse, croyez-moi, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Chers amis, essayons de comprendre maintenant ma réponse à cet amour. En parlant de l'activité souveraine de Dieu dans le salut, une question revient souvent. Dieu force-t-il les hommes à aller au ciel contre leur propre volonté? Loin de là, il change simplement leur volonté et leur disposition. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, nous dit Jésus-Christ dans Saint Jean, chapitre 6, verset 44. Aussi notre nature doit-elle subir un changement? Essayez de boire avec un gobelet rouillé, même l'eau pure aura le goût de la rouille. Changer de boisson n'enlèvera pas le goût qui vient du gobelet. En ce qui concerne l'homme, non seulement ne peut-il pas accepter Christ, mais sa nature s'oppose à Dieu. Laissé à sa propre volonté, eh bien l'homme rejette Christ. Christ pour qui l'accepte vraiment Christ, croyez-moi, Dieu doit donc changer sa nature, et ceci de sorte que sa volonté réponde naturellement et librement à la grâce divine. Je crois que ça vaut la peine de répéter. Laissé à sa propre volonté, l'homme rejette Christ. pour qu'il l'accepte vraiment, Dieu doit changer sa nature de sorte que sa volonté réponde naturellement et librement à la grâce divine. Seul le Saint-Esprit est la réponse de l'homme. Il s'avère impossible de séparer la volonté d'une personne de sa nature. Le coyote a pour nature de hurler, et ses instincts le conduiront de temps à autre sur tel ou tel rocher où il laissera échapper son cri morbide. Par contre, le lapin ou la marmotte ne hurleront pas, car cela n'appartient pas à leur nature. Jérémie affirme, en parlant du cœur de l'homme, « Le cœur est tortueux par-dessus tout », combien c'est vrai, « et il est méchant », Jérémie chapitre 17, verset 9. En rejetant Jésus-Christ, il répond tout simplement aux injonctions de sa nature. Si au contraire, quelqu'un accepte Christ, sa nature fondamentale a subi une transformation. Et dans les deux cas, la volonté de la personne décide du choix. C'est le libre choix. Une question se pose alors. Ce choix constitue-t-il l'élément déterminant dans son salut? Je répondrai à la fois oui et non. Oui, car s'il n'accepte pas Christ, il sera perdu ou, dans le cas contraire, il vivra. Non, dans le sens où seule une action de la grâce divine peut vraiment changer la nature de cet homme et lui permettre de répondre à Dieu par l'affirmative. Le cœur humain, privé du renouvellement efficace de la grâce divine, ne poussera jamais quiconque vers la vérité. La régénération s'avère irrésistible tout simplement parce que le Dieu qui régénère est irrésistible. Notre aveuglement naturel nous empêche de reconnaître la beauté de Dieu. Aussi, quand il guérit notre cécité, que pouvons-nous dire sinon « Maintenant, je vois ». Gloire à Dieu. L'on parle souvent du salut en les termes de part, la part de Dieu et la nôtre. Cela pourrait cependant suggérer que nous contribuons en fait, en quelque sorte, à notre salut. Je me rappelle avoir entendu le reproche suivant. Attention, tu sembles presque dire que nous ne jouons aucun rôle dans notre salut, presque. Interrogation. Presque, répondis-je. Mais nous n'en jouons aucun rôle. Pourquoi tenons-nous tant à jouer un rôle dans le don de Dieu? Pourquoi ne pas dire tout simplement à Dieu seul soit toute la gloire, et y croire vraiment. Toute référence à notre rôle indique aussitôt un salut par les œuvres, et non plus par la grâce seule. Donc, un salut provenant à la fois de l'homme et de Dieu, et non de Dieu seul. Voyez-vous, comprenez-vous un peu tout cela? Or, notre décision elle-même ne mérite pas la vie éternelle. Je suis tout à fait conscient qu'un bon nombre de chrétiens qui, peut-être, vont écouter la suite de cette série d'études vont dire « Mais cet individu est un extrémiste très dangereux ». Malheureusement, nous voulons un salut bon marché et nous pensons que les œuvres comme bien se comporter, par exemple avec les voisins, ou fréquenter régulièrement une église, suffisent largement pour gagner la vie éternelle, comme c'est beau. En plus, nous pensons avoir droit à la vie éternelle si nous prenons une décision, soit en répondant à un appel ou en signant tout simplement une carte de décision. En réalité, en répondant simplement par la foi, nous pouvons nous contenter de saisir ce que Dieu a déjà accompli. Notre foi ne mérite rien du tout. Il s'agit plutôt de notre responsabilité d'accepter ce que Dieu a fait pour nous. John Stott déclare à cet effet « Je ne dois jamais voir le salut comme une sorte de transaction entre Dieu et moi dans laquelle il pourvoirait la grâce et moi la foi. » Non, enseigne très clairement les apôtres de Christ. Ils enseignent très clairement la foi qui sauve constitue aussi un don de la grâce de Dieu. Nous étions morts et devons donc recevoir la vie avant de croire. Il y a quelque temps, l'on posa cette question à un responsable d'une église importante. On lui posa la question, « Croyez-vous que nous sommes sauvés par la foi ou par les œuvres ?»« Ni l'un ni l'autre, répondit-il avec sagesse, mais par la miséricorde de Dieu. » Voyez-vous, aujourd'hui, l'on parle beaucoup trop de la foi et pas assez de son objet. Au lieu de la voir comme un moyen pour nous mettre en relation avec Christ, elle devient une fin en soi. Nous nous mettons à tourner sur nous-mêmes en essayant de l'entretenir. Cependant, la source du salut ne se trouve pas dans l'acte de foi, mais en la personne en qui l'on place sa foi. Avez-vous bien compris cela ? Être justifié par la foi signifie être déclaré juste en raison de l'œuvre de Christ et non en raison de notre, de mon acceptation de son œuvre. Il m'appartient d'être disposé à croire, a dit quelqu'un, et à la grâce divine de m'y aider. Ce dicton merveilleux, en apparence, même inoffensif, s'accorde à l'enseignement reçu par la plupart d'entre nous. Cependant, Pélage, son auteur et ses enseignements furent condamnés, même par certaines églises officielles. Si j'ignore la distinction entre mon activité et la puissance de Dieu, remarqua Luther, eh bien je ne connais pas Dieu. Aussi ne puis-je l'adorer, le louer ou le servir. En effet, je ne saurai jamais ce que je dois attribuer à Dieu ou à moi-même. Non. La miséricorde divine, nous dit Luther, la miséricorde divine seule accomplit toute chose. Ma propre volonté ne joue aucun rôle. Elle n'agit pas d'elle-même, mais plutôt Dieu agit sur elle. Il doit en être ainsi, sinon il ne serait pas le seul auteur de mon salut. Nous devons donc compter sur Dieu, même pour nous donner la capacité de nous confier en lui. Après tout, qu'est-ce que la foi, sinon une dépendance totale à l'égard de Dieu? L'apôtre Paul affirme, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez bien au contraire, remplis de qui ? Remplis de l'Esprit Saint. » Éphésiens chapitre 5, verset 18. Par nature, le péché a intoxiqué tout notre être et nous ne pouvons plaire à Dieu. Néanmoins, la décision de nous détourner de Dieu nous appartient. Le péché contrôle nos facultés, mais les décisions nous appartiennent. Quand le Saint-Esprit prend possession de nous et nous emplit de ses nouveaux désirs et de sa toute-puissance, nous nous tournons naturellement vers Dieu. La décision de nous détourner de Dieu et celle de nous tourner vers lui, cela nous appartient. Ça nous appartient l'une et l'autre. Et cependant, sans la grâce de Dieu, aucune décision pour Christ ne se produit jamais. La Bible nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Saint Matthieu chapitre 11 verset 28. Voici donc une offre divine, sincère et sans restriction. À quiconque veut venir, nul n'est exclu, mais il faut y venir. Quand la grâce de Dieu choisit, rachète et appelle, elle n'exclut personne de l'invitation. Bien au contraire, elle inclut des personnes qui autrement s'excluraient elle-même. En réalité, cette grâce souveraine assure le succès de l'invitation en disposant un grand nombre à y répondre. Évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 44. Pourquoi Dieu invite-t-il tout le monde à recevoir le salut quand il sait très bien que seuls les élus viendront à Christ? Voilà une question sérieuse. Tout d'abord, le Saint-Esprit utilise cette invitation générale et universelle pour communiquer l'Évangile aux élus eux-mêmes. Oui, Dieu nous emploie ainsi comme ses collaborateurs pour amener des hommes à la foi. Ne connaissant pas l'identité des élus, notre rôle consiste à répandre la semence de l'Évangile sur l'ensemble du champ et à en laisser les résultats à Dieu. Ensuite, cette invitation universelle laissera les incrédules sans aucune excuse au jour du jugement. Personne n'ira au ciel sans l'avoir vraiment voulu, et personne ne se trouvera non plus en enfer sans avoir lui-même, ce qui veut dire lui-même, ça veut dire elle-même, etc., sans que lui-même choisisse de se détourner simplement de Dieu, de le rejeter, de le négliger, de complètement l'envoyer balader, comme il y en a qui disent. Chacun recevra, croyez-moi, ce qu'il a choisi. Aucun ne pourra dire qu'il voulait venir à Christ, mais on a été, hélas, empêché. L'incrédulité ne vient pas du silence de Dieu, mais elle vient du refus du pécheur d'entendre et surtout de répondre. Prenons une illustration. Des malfaiteurs se préparent à attaquer une banque. Ayant eu vent de leur intention, j'essaie de les convaincre de ne pas commettre ce délit. N'écoutant que leur méchanceté, ils partent l'accomplir. Alors, saisissant l'un d'eux, je le plaque au sol et le retiens. Au cours de l'attaque, un gardien est tué, un homme de famille avec 3 petits-enfants, et les bandits se voient condamnés. L'homme que j'ai saisi peut-il vraiment affirmer « Mais je ne suis pas condamné, tout simplement, car j'étais bien meilleur que les autres. » Quel gros mensonge, chers amis! Non. Bien sûr, il échappe au châtiment grâce à mon action et nullement en raison de ses très bonnes intentions, paraît-il, soi-disant. En résumé, quiconque va en enfer ne peut blâmer personne sinon lui-même. Et quiconque va au ciel ne peut louer personne sinon Jésus-Christ. Alléluia. Nous devrions souhaiter le salut de tous, disait Jean Calvin avec grande justesse. En effet, Dieu lui-même affirme « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Pouvons-nous, chers amis, désirer autre chose? Quand je proclame que Jésus-Christ sauve les pécheurs, l'Esprit de Dieu fait pénétrer cette vérité dans le cœur de certains pécheurs en particulier. J'ai donc l'assurance que la parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Cette certitude rend l'évangélisation passionnante et je deviens vraiment un pécheur d'homme. Ainsi, même la réception du salut, je répète, même la réception du salut se révèle à être un don de Dieu. L'appel irrésistible de l'Esprit Saint, grâce inconditionnelle, détruit le dernier refuge de l'orgueil humain. N'est-il pas merveilleux de pouvoir placer sa confiance en celui qui ressuscite les morts, transforme les chenilles en papillons et les pécheurs en saints? N'est-il pas extraordinaire dans ce monde où règne la superficialité et l'égoïsme que le Créateur de l'univers s'intéresse tant à vous et même à moi? Notre roi est assuré d'un royaume. L'homme ne peut lui résister, ni le frustrer, et encore moins l'obliger par ses prétendu mérite quelque chose. Les apôtres ne prêchaient pas l'œuvre méritoire de prendre Christ comme sauveur et seigneur. Non, 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 non. Il est déjà seigneur. L'évangile nous appelle à venir à lui comme au pied d'un monarque, dans la soumission à sa personne et à son autorité. Jésus-Christ est Seigneur, il est le souverain à qui nous devons fidélité et obéissance. Aussi, rendons-lui cet hommage. Dieu s'est engagé à l'égard de son peuple dès avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Et il nous appelle à y répondre dans le temps. Son amour nous a conquis et notre vie ne sera jamais plus la même. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions. Remplis-nous de ton esprit, ô Dieu de paix. Apaise et domine le tumulte de nos clameurs. Éteins la flamme maudite et dévorante de nos querelles. Impose-nous la vision d'un monde pacifié afin délivrer des stupides et criminelles anarchies que nous décorons trop souvent du nom d'ordre. Seigneur, nous soupirons après une terre organisée par la justice, enfin prête pour la révélation des fils de Dieu et l'épanouissement d'une humanité humanisée. Tous, nous nous sommes égarés, fuyant tes sentiers comme un troupeau errant loin du bercail. Individus et nations, nous avons recherché avec ténacité, toujours avec férocité parfois, des buts totalement égoïstes, négligeant ton commandement de fraternel amour. Mais c'est en toi seul que se trouve le secret de notre unité, la source de notre vie, la vision et la promesse de notre paix. Oh, aide-nous à entendre ton appel. Tu nous as placés sur une terre féconde et productive. Pardonne-nous d'avoir saccagé carrément notre héritage par la guerre et massacré des frères qui auraient aimé vivre en paix. Pardonne à nos églises d'avoir souvent, par les crimes de leur orgueil, de leur intransigeance et de leur dureté, par leur scandaleuse concurrence et la vanité de leurs querelles, travailler contre Jésus-Christ tout en prétendant des lèvres de représenter auprès des hommes le Seigneur. Aie pitié, Seigneur, et pardonne sur les divins sentiers que notre œil humain est inhabile à découvrir, et conduis-nous tous vers l'union des cœurs et des volontés et par-delà nos factions et de nos sectes, vers ta beauté et vers ta paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix. Amen. Et chers amis, sachez que Dieu aime tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Par contre, ceux qui ont refusé son salut n'obtiendront jamais la rédemption. C'est écrit dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. Chers amis, si vous avez placé votre foi, votre vie en Jésus-Christ, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Soyez bénis et merci pour votre écoute et votre intérêt à ces études. Comme vous l'avez compris, ces études deviennent parfois de plus en plus difficiles, mais elles continuent encore pour un bon moment. À bientôt, mes chers amis. Au revoir. Merci.